Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, jeudi 4 décembre 2025. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab sur le 88.4 FM DAB+, ou pour les plus fifous, fifoles, en streaming sur c-lab.fr. On commence tout de suite avec le flash de Baptiste.
Une vingtaine de Gazaouis, dont la moitié sont des jeunes femmes, suivent un cursus de reporter depuis le cessez-le-feu. Ce cursus est financé par deux ONG françaises, Supernova et Frontlines for Peace. Accompagnés à distance par des journalistes étrangers jusqu'en janvier 2026, ils suivent une formation de 5 jours par semaine dans les locaux de la Maison de la Presse à Gaza. Pour rappel, plus de 226 journalistes ont été tués depuis le début du conflit. Le gouvernement américain poursuivi en justice par des supermarchés. L'enseigne Costco a déposé plainte cette semaine contre les droits de douane fixés par l'administration Trump auprès du Tribunal de commerce international. L'entreprise estime ces droits de douane illégaux et demande le remboursement des taxes payées depuis sa mise en place. Le Tribunal de commerce international et la Cour d'appel donnent raison aux plaignants. En attendant la réponse de la Cour suprême sur cette affaire, les surtaxes douanières sont quand même maintenues. Quelle réponse du gouvernement français pour la condamnation de Christophe Glaize en Algérie ? À la suite de la condamnation en appel du journaliste français, le président Emmanuel Macron, en déplacement en Chine, a tenu à s'exprimer sur le sujet aujourd'hui. Il affirme que les autorités françaises agissent pour obtenir sa libération et son retour en France dans les plus brefs délais. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, quant à lui, confirme qu'il y a des discussions en cours avec les autorités algériennes. Pour rappel, la famille de Christophe Glaize appelle à une grâce présidentielle. Des polluants éternels bien présents dans l'eau de nos robinets. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a coordonné le prélèvement d'échantillons d'eau brute dans toute la France. En vertu d'une directive européenne prévue en 2026, les résultats de cette campagne ont été rendus publics hier. Estelle a analysé ce rapport.
1200 prélèvements ont été effectués en recherche de PFAS. Parmi eux, l'un se distingue, le TFA, l'acide trifluoroacétique, présent dans 92% des prélèvements. C'est ce que révèle le rapport d'appui scientifique et technique mené par le laboratoire d'hydrologie de Nancy. Pourquoi cette opération a été réalisée ? Parce qu'à partir du 12 janvier 2026, une directive européenne impose la surveillance de 20 PFAS dans l'eau du robinet, en plus des contaminants déjà contrôlés comme le nitrate ou les bactéries. Pour anticiper d'éventuels dépassements de ces futures normes, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a mené des prélèvements sur le territoire français.
Et que veut dire exactement ce terme PFAS ?
Les PFAS, aussi appelés polluants éternels ou composés perfluorés, sont des substances chimiques utilisées dans les produits industriels ou ménagers. Par exemple, on en retrouve dans le téflon, le revêtement des ustensiles de cuisine, mais aussi dans les meubles, les emballages alimentaires et les produits cosmétiques. Problème, ces polluants sont très difficilement éliminables. Lorsqu'ils sont rejetés dans la nature, ils infiltrent les nappes phréatiques et finissent dans nos robinets. Une forte exposition peut être toxique et cancérigène.
Et qu'a-t-il révélé ce rapport publié hier ?
Derrière des chiffres qui ne font plus vraiment peur, ce rapport met en évidence un PFAS qu'on retrouve partout, le TFA. Il se distingue des autres parce qu'il est détecté dans 92% des échantillons, que ce soit dans l'eau brute ou dans l'eau potable, en métropole comme en outre-mer. Au total, les échantillons prélevés représentent l'alimentation en eau d'au moins 20% de la population française, indique l'ANSES. Son omniprésence est frappante. Dans la commune de Saint-Lindre, dans le Gard, on a mesuré jusqu'à 25 000 nanogrammes par litre. Un taux aussi élevé s'explique pour deux raisons. Sa taille minuscule, qui lui permet de se déplacer très facilement dans l'eau, et parce qu'il produit par la dégradation d'herbicides comme le flufénacé, mais aussi de gaz fluoré. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler du TFA. En janvier 2025, une enquête d'UFC Que Choisir et de l'ONG Génération Future montrait déjà qu'il était le PFAS le plus retrouvé dans l'eau. Ce petit PFAS n'est pas sans surveillance. L'Autorité européenne de sécurité des aliments le suit de près par crainte de ses effets sur le foie, la fertilité et le développement des fœtus.
Et le TFA est le seul des PFAS détectés ?
Non, ce n'est pas le seul. Au total, 35 PFAS ont été retrouvés dans les échantillons. Parmi les 20 PFAS surveillés par la réglementation, seulement 9 dépassent le seuil autorisé avec des concentrations pouvant atteindre jusqu'à 451 nanogrammes par litre, soit 4 fois la norme autorisée. L'ANSES a aussi cherché 15 autres PFAS non couverts par la directive européenne afin d'identifier d'autres substances susceptibles d'être surveillées en complément. Outre le TFA, elle souligne la présence significative de TFMSA dans 13% des échantillons, une molécule jusque-là jamais détectée dans l'eau potable française. Le rapport rappelle aussi que 3 PFAS reviennent souvent. Le PFOS, potentiellement cancérogène et dont la production et l'utilisation sont restreintes depuis 2009, il est retrouvé dans 24% des échantillons d'eau brute et 19,1% d'eau potable. Le PFHXS, interdit dans l'Union européenne, il est présent dans 26,6% en eau brute et 21,7% en eau potable. Et le PFHXA, dont l'usage a été restreint par l'Union européenne en 2024 pour des risques inacceptables pour la santé et l'environnement, il est détecté à 18,2% en eau brute et 16,1% en eau potable.
Dans les Ardennes, 13 communes n'ont plus accès à l'eau potable depuis cet été. Des analyses ont trouvé des taux de PFAS jusqu'à 27 fois supérieurs à la norme. Dans les Vosges, aussi touchées, des associations appellent les habitants et habitantes à réagir. Elles organisent une réunion publique le 5 décembre pour envisager la création d'un collectif citoyen et décider des prochaines actions. Une quasi-abandon des enfants hospitalisés en psychiatrie. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, alerte dans un avis publié aujourd'hui. L'isolement des enfants est utilisé massivement dans les hôpitaux. Ils sont la plupart du temps pris en charge selon les modalités nullement justifiées. Des structures d'accueil saturées, des chambres engorgées et des équipes insuffisamment formées sont aussi décriées. Pour Dominique Simoneau, les pouvoirs publics doivent instaurer un statut particulier pour ces enfants. Expulsion du centre Simone If. Dès 7h ce matin, les forces de l'ordre ont procédé à l'expulsion de 137 personnes, dont 70 enfants. À la suite de cette expulsion, la préfecture d'Ille-et-Vilaine s'est défendue en indiquant que c'était une opération de mise à l'abri volontaire des personnes identifiées ces derniers jours, vers plusieurs hébergements. À la suite de ça, elle a rajouté que l'évacuation s'est déroulée dans le calme. Envie de sensations fortes, la foire d'hiver débarque sur l'esplanade Charles de Gaulle du 6 décembre au 4 janvier 2026. Cette année encore, vous aurez le choix avec plus de 80 manèges étendus sur plus de 10 000 mètres carrés. Une fête foraine d'un mois pour profiter pleinement des festivités, des manèges, des gourmandises qui font la renommée de cet événement. A noter que pour le dernier jour de l'année, la foire ouvrira exceptionnellement jusqu'à 3h du matin.
Oh, je suis là. C'était le flash de Baptiste. Merci beaucoup, Baptiste. À une prochaine fois, j'espère.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
La semaine dernière, le journaliste Hugo Clément était de passage à l'espace Ouest France pour présenter sa BD Le paradoxe de l'abondance. Lafken en a profité, bien sûr, pour lui poser quelques questions.
Eh bien, Hugo Clément est avec nous ce soir. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Figure emblématique du combat écologiste, vous produisez depuis 2019 sur France TV l'émission Sur le Front. Sur Instagram, vous réunissez aujourd'hui 1,7 million de followers. En parallèle, vous avez créé votre média en ligne Vaquita. En 2023, vous sortez une première BD sur la maltraitance animale, intitulée Le théorème de Vaquita. Et 2 ans plus tard, vous revenez avec une seconde BD, paru le 3 octobre dernier avec 160 pages de dessins et d'études. Aujourd'hui, nous parlons du paradoxe de l'abondance. En quelques mots, en presque une phrase, de quoi parle cette nouvelle bande dessinée ? C'est quoi le paradoxe de l'abondance ?
Alors, le paradoxe de l'abondance, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, à savoir qu'on n'a jamais produit autant de nourriture sur cette planète. Et en même temps, notre manière de produire de la nourriture, l'agriculture intensive, en surexploitant les capacités du sol, détruisent à court et moyen terme la capacité du sol justement à nous nourrir. Puisque la civilisation telle qu'on la connaît repose sur une très fine couche de terre, en fait, hein, de quelques dizaines de centimètres. où il y a un équilibre très fragile entre des champignons, des bactéries, des organismes vivants comme les vers de terre. Et dès que vous mettez trop d'engrais chimiques, trop de pesticides de synthèse, que vous avez des cultures trop intensives, et ben cet équilibre est détruit et le sol n'est plus aussi fertile qu'il l'était auparavant. Donc c'est ça le paradoxe de l'abondance. Et cette BD, c'est à la fois une enquête sur l'agriculture industrielle et aussi un livre de solutions et une mise en avant des paysans et des paysannes qui font les choses autrement.
Évidemment, bah, du coup, on va revenir sur ces solutions, mais aussi toutes les problématiques. Mais pour commencer, on a des dessins en aquarelle à la fois beaux et tragiques, un scénario militant et vadrouilleur. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez rapidement nous parler de Dominique Mermoux et Vincent Ravalec, avec qui vous avez collaboré, Hugo Clément, pour cette bande dessinée?
Ouais, donc Dominique Mermoux au dessin, qui effectivement a fait ses magnifiques aquarelles, Vincent Ravalec au scénario, avec lequel on a travaillé sur le récit. C'était déjà la même équipe pour la première BD, Le Théorème du Vaquita, donc on a prolongé l'expérience. Et c'est un travail en fait assez fluide entre nous trois. Moi, j'apporte toute la matière première, donc les reportages, les informations, les rencontres. Vincent, il met tout ça en forme et dans le bon ordre, et ensuite Dominique dessine par-dessus, et puis il y a des allers-retours entre nous pour valider les dessins, faire des modifications, etc. Et donc ça va assez vite en fait en termes de production, de fabrication de la BD. Ce qui est long, c'est l'accumulation de tous ces reportages au fil des années et des nombreux mois passés sur le terrain avec les agriculteurs.
Et pourquoi avoir choisi justement les dessins plutôt que les photos, les bulles plutôt que les paragraphes? Est-ce que ça rend un petit peu le sujet plus humain, plus abordable? Pourquoi la bande dessinée?
Bah, la bande dessinée, c'est alors déjà d'un point de vue purement égoïste, c'est une forme que moi j'adore. Je suis très très lecteur de bande dessinée. Je trouve que l'information passe bien en bande dessinée pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on peut restituer de manière assez fidèle les émotions qu'on rencontre en étant sur le terrain. C'est aussi beaucoup plus facile qu'un reportage photo, parce que le reportage photo, ça suppose dans certains endroits de prendre des photos alors que les gens veulent pas, de montrer des choses qui peuvent être parfois très violentes en vidéo ou en photo. Je pense à tous les élevages intensifs ou les abattoirs. Évidemment, en dessin, il y a une forme de filtre qui permet non seulement de romancer un peu la réalité et puis d'adoucir la dureté de certaines situations pour pouvoir parler des sujets sans montrer la réalité très crue avec les photos. Et puis ça nous permet aussi de faire ce qu'on pourrait pas faire avec une caméra ou un appareil photo, c'est remonter plusieurs centaines d'années en arrière pour revenir à l'origine de l'histoire de l'agriculture, puisque on est une espèce, nous Homo sapiens, qui a à peu près 300 000 ans, et l'agriculture, ça a à peine 10 000 ans. Donc à l'échelle de notre espèce, c'est une toute petite parenthèse, et on a voulu explorer les débuts de cette agriculture pour comprendre comment on en était arrivé à la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Et justement, en parlant de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la bande dessinée, elle commence ainsi. Nous vivons une époque de bascule, les sols s'épuisent, les eaux se dégradent et l'air que nous respirons devient un poison lent. Ce sont des constats forts, alarmants. Ils viennent d'où ? Quels chiffres pour appuyer ces constats, quelles études?
Ce sont des constats faits par les scientifiques depuis maintenant un certain nombre d'années, tous les scientifiques qui travaillent sur la biologie du sol. En France, on a beaucoup d'organismes qui travaillent sur ces sujets-là, des organismes reconnus internationalement. Je pense au CNRS, je pense à l'INRAE, l'Institut National de Recherche sur l'Alimentation et l'Agriculture et l'Environnement. Et donc, toutes les données existent. On commence la BD avec les époux bourguignons, qui sont des agronome spécialiste de la vie du sol et qui nous raconte un peu toutes leurs découvertes récentes. On sait qu'en France, la grande majorité des sols agricoles sont dégradés, sont dans un état de dégradation même parfois très avancé. Et on sait, pour avoir quelques exemples, que par exemple, on a perdu 80% des insectes volants en Europe ces 30 dernières années. Donc c'est un effondrement qui est massif et surtout qui est sur une échelle de temps très réduite, hein, parce que 30 ans, c'est rien à l'échelle de la vie sur Terre. On a perdu 80% des insectes volants en 30 ans. Et ces insectes, on en a besoin notamment pour polliniser nos cultures et donc pour faire de l'agriculture tout simplement. Mais aussi, ils servent de nourriture aux oiseaux. Et donc, les oiseaux subissent aussi ce déclin-là. On a perdu à peu près 30% des oiseaux des plaines agricoles en 30 ans. Donc, tous ces chiffres sont disponibles. Et il y a les mêmes chiffres sur les vers de terre. Où on sait qu'il y a beaucoup moins de vers de terre à l'hectare aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc, tous ces indicateurs sont dans le rouge. Parfois dans le rouge, 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 et il y a une vraie urgence à changer notre manière de cultiver le sol si on veut préserver à long terme notre capacité à nourrir la population.
Et justement, vous avez évoqué le duo bourguignon. Vous vous appuyez sur les travaux donc, de Claude et Lydia Bourguignon, mm-hmm. un duo pionnier dans l'analyse microbiologique des sols en 1970. Pourquoi s'appuyer sur leurs études? Qu'est-ce qu'elles apportent? Et est-ce que rien n'a changé en presque 60 ans?
Alors, on ne s'appuie pas seulement sur leurs études, on s'appuie sur des études beaucoup plus récentes. Hein. Les chiffres que je vous ai cités, par exemple, sur les insectes volants, c'est des études qui sont sorties il y a quelques années à peine. Donc, on a dans la BD les chiffres les plus récents. Mais les Bourguignons sont des pionniers dans l'étude de la biologie des sols et les mécanismes qui sont à l'œuvre sont les mêmes qu'il y a 30 ans. C'est simplement que la gravité est encore pire qu'il y a 30 ans, que la quantité de produits qu'on met dans les sols est toujours aussi importante, voire parfois plus importante. Mais la description qu'ils font de comment fonctionne un sol vivant, c'était déjà le cas il y a 30 ans, c'était déjà le cas il y a 150 ans, c'était déjà le cas il y a 500 ans. Les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre, c'est simplement nos pratiques, nous, qui évoluent et qui déséquilibrent cette harmonie.
C'est toujours d'actualité, effectivement, il n'y a pas seulement les Bourguignons. La force de cette BD, c'est sûrement l'aspect collectif et transdisciplinaire. Assez rapidement, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de monde qui interviennent dans votre BD, quels domaines ou métiers sont mis en avant? Qui est-ce qu'on peut rencontrer comme intervenant?
Pour répondre rapidement, avant tout les agriculteurs et les agricultrices qui sont dans chaque chapitre au cœur de nos investigations. À chaque fois, ce sont des agriculteurs qui nous amènent pour nous montrer soit les dégâts de l'élevage intensif, soit les dégâts des faux labels, des cultures intensives de légumes, par exemple. À chaque fois, on y va avec des agriculteurs parce qu'on voulait vraiment montrer que pour chaque problème, il y a une solution. Et pour chaque méthode de culture qui détruit la nature, il y a aussi en France des femmes et des hommes qui font différemment et qui, eux, ont des méthodes de culture qui permettent de préserver les écosystèmes, parfois même de les régénérer et de nourrir la population avec des produits de qualité. Et le problème, c'est que ces personnes-là, elles ne sont pas assez mises en lumière dans les médias. Quand on parle de l'agriculture, c'est toujours les mêmes qu'on entend, toujours les mêmes qu'on voit. Et ces gens-là méritent d'être vraiment mis en avant et de montrer que ça fonctionne. On peut faire différemment. Quand on nous répète toute la journée qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut faire comme ça parce que ça a toujours été comme ça, c'est faux. Il y a des gens qui font différemment et qui arrivent à s'en sortir tout à fait correctement.
Oui, c'est ça, cette volonté de masse de témoignages, d'études, c'est aussi un gage de crédibilité, effectivement, à une époque où les acteurs, les actrices de terrain sont peut-être effectivement moins entendus.
Oui, ils sont peu entendus parce que c'est toujours le même visage de l'agriculture qui a accès aux médias, à savoir les défenseurs de l'agriculture industrielle, notamment la FNSEA, qui est le principal syndicat agricole et qui porte ce discours de défense des pesticides, de défense de la productivité poussée à l'extrême. Mais il y a tout un tas d'autres acteurs du monde agricole qui ne partagent pas ce discours et il est temps qu'on les entende aussi.
Dans le cadre d'une radio locale et pour appuyer sur la Bretagne. Là, vous venez présenter votre bande dessinée en Bretagne, une région française largement marquée par l'agriculture. On nous dit souvent qu'il y a même plus de cochons que d'habitants en Bretagne.
Ouais.
Et justement, il y a un moment où vous faites un zoom sur notre région, un désastre écologique qui touche nos côtes depuis plusieurs dizaines d'années, les algues vertes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce fléau et qu'est-ce qui en ressort dans votre bande dessinée?
Alors, je pense que la plupart des Bretons et des Bretonnes savent très bien ce qui se passe au niveau des algues vertes, mais pour résumer, ces algues qui se retrouvent sur les rivages et qui, en se décomposant, dégagent un gaz qui peut être dangereux à la fois pour les animaux et les humains, sont favorisées par les rejets des élevages intensifs porcins, notamment par une grande quantité de nitrates qui se retrouvent dans les rivières et donc à terme dans l'océan. Et ces nitrates vont nourrir ces algues et donc les favoriser, les aider à se multiplier. C'est un problème qui est connu depuis bien longtemps. Il y a eu une très bonne enquête qui a été faite par Inès Leroux, la journaliste, avec la célèbre BD Les Algues Vertes. Il y a eu un film aussi, mais je pense qu'encore une fois, dans la région, tout le monde est un peu au courant. Mais c'est un symbole des dérives de cette agriculture intensive au nom de la productivité, au nom d'un élevage qui produit d'énormes quantités de viande, bien plus que ce dont on a besoin pour se nourrir. On pourrait très bien manger beaucoup moins de viande de cochon et être en tout aussi bonne santé, voire même en meilleure santé, parce qu'on sait que les produits transformés comme la charcuterie notamment sont extrêmement délétères pour la santé humaine. Donc on fait des choses dont on n'a pas besoin et ces choses-là détruisent des écosystèmes dont on a besoin pour le coup, notamment les rivières. Et je pense que les pêcheurs de Bretagne ou les gens qui connaissent bien les rivières bretonnes savent dans quel état catastrophique sont les cours d'eau ici et savent à quel point cette agriculture industrielle a des impacts sur la santé de la région au sens large. Et en plus, ça ne rend pas les agriculteurs heureux parce que c'est des systèmes dans lesquels ceux qui gagnent vraiment l'argent à la fin sont les intermédiaires, sont les distributeurs et ne sont pas les agriculteurs en eux-mêmes. Et en plus, les conditions, évidemment, ça je ne rentre pas dans les détails, mais les conditions d'élevage de ces élevages porcins en Bretagne sont la plupart du temps abominables, avec des cochons qui n'ont pas accès à l'extérieur, qui sont entassés dans des espaces très exigus, qui n'ont aucun divertissement, aucune possibilité d'avoir des interactions normales de leur espèce, alors que ce sont des animaux très intelligents qui n'ont rien à envier aux chiens ou aux chats, et on les traite d'une manière absolument inacceptable.
Et c'est justement un sujet qu'on aborde souvent sur ces labs. On s'est entretenu avec l'Observatoire de l'environnement en Bretagne récemment, avec L214. Est-ce que pour vous, il y a des solutions pour combattre les algues vertes en Bretagne? Est-ce que la BD, elle apporte des réponses?
Il y a une solution très claire, élever moins de cochons en Bretagne, revenir à des élevages beaucoup plus artisanaux, parce que le problème, c'est la quantité de déjections, en fait, hein, tout simplement. C'est quand on a autant de cochons concentrés dans une région aussi petite, on a des quantités astronomiques de déjections et donc une production de pollution inévitable. Qui impacte tout l'écosystème. Donc la seule solution, c'est de produire moins de porcs, d'élever moins de cochons et donc, au bout du bout, de manger moins de viande. Ça ne veut pas dire ne plus en manger du tout, mais ça veut dire en manger moins que ce qu'on en mange aujourd'hui. Ça, c'est inévitable.
D'où le titre paradoxe de l'abondance. Et évidemment, on invite tout le monde à lire votre bande dessinée. On ne va pas spoiler ici non plus toutes les réponses qui y sont apportées. Cependant, on peut peut-être avoir des premières réponses. Est-ce que c'est réellement imaginable un futur, comme vous dites, où l'agriculture n'est pas une guerre contre la nature, mais un pacte avec elle? Est-ce qu'on a encore le droit d'être optimiste dans le paradoxe de l'abondance?
De toute façon, on n'aura pas le choix, puisque l'agriculture industrielle telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas pérenne, ni même économiquement d'ailleurs, puisqu'elle dépend en bonne partie de subventions publiques, c'est-à-dire que malgré cette productivité poussée à l'extrême, beaucoup d'exploitations ne seraient pas rentables aujourd'hui s'il n'y avait pas les aides publiques. Donc même d'un point de vue économique, c'est une aberration. Donc on n'aura pas le choix de toute manière de faire cette transition. La question, c'est est-ce qu'on va organiser cette transition vers un autre modèle agricole pour faire en sorte qu'il soit le plus juste possible, que les paysans y gagnent aussi dans l'affaire, ou est-ce qu'on continue à foncer tête baissée dans le mur et à un moment donné, la réalité biologique des sols nous sautera au visage et malheureusement, ça sera beaucoup plus difficile de rattraper les dégâts derrière.
Et donc, malgré tout, il y a peut-être quand même des solutions. Enfin, là, par exemple, je pense à réduire la consommation de viande, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a peut-être aussi le moyen de donner plus aux agriculteurs et aux agricultrices de moyens de respecter les terres et les eaux. Par quoi est-ce que ça passe?
Ça passe par rediriger les subventions publiques massives à l'agriculture vers les agriculteurs qui ont les modes de production les plus responsables et non pas vers les plus grosses exploitations, puisque c'est le modèle actuel. Plus les exploitations sont grosses, plus il y a d'hectares, plus elles touchent de subventions et donc il y a une sorte de course à la productivité, à l'agrandissement des fermes, alors qu'il faudrait au contraire soutenir les agriculteurs qui rendent des services à la collectivité, qui rendent des services à nous toutes et nous tous, notamment en préservant les haies, en préservant les arbres, en préservant des modes de culture raisonnés avec des sols couverts, avec une rotation des cultures, etc. C'est aussi un choix politique de savoir à qui on donne l'argent et qu'est-ce qu'on soutient. Et à la fin des fins, il faut aussi que le consommateur accepte de payer le juste prix de la nourriture, puisqu'aujourd'hui, la part de l'alimentation dans notre budget est beaucoup plus faible que ne l'était celle de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, où une bonne partie du budget était consacrée à la nourriture. Aujourd'hui, on n'accepte plus de payer pour de la nourriture, on veut toujours plus de low cost, mais la conséquence, c'est une agriculture industrielle qui détruit la nature et qui produit des produits de mauvaise qualité en plus.
Et là, on arrive à la fin de l'interview. Je me permets de vous poser une dernière question en ouverture, parce que c'est un débat qui revient assez régulièrement dans le combat aussi écologiste. À un moment, vous rencontrez Jonathan. Il est agriculteur bio dans la région de Toulouse et il fait une critique assez intéressante. Pour Jonathan, toute cette pollution via les engrais, les pesticides, l'azote, c'est parce qu'on doit produire plus, faire plus de profit. Alors, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que vous pensez, Hugo Clément, que le capitalisme est le fameux poison aussi pour nos terres et nos eaux? Est-ce que alors l'écologisme doit se rallier à la lutte des classes, selon vous, à une lutte un peu anticapitaliste?
Je ne pense pas, parce que les modèles alternatifs au capitalisme ne sont pas des modèles plus vertueux pour l'environnement, et tous les exemples qu'on a eus montrent même que parfois c'est bien pire. Quand c'était le modèle communiste à l'ancienne en URSS, qui était très extractiviste, en fait... être anticapitaliste, ça n'empêche pas d'être extractiviste et productiviste. C'est le cas dans les pays comme le Venezuela, où on a sur une économie qui est très basée sur l'extraction de pétrole, donc sur une destruction de l'environnement. La Chine, qui est un modèle hybride entre capitalisme et communisme, en tout cas qui est un régime illibéral, qui est un peu construit à l'inverse de nos démocraties occidentales, est évidemment un pays destructeur de l'environnement. Donc je pense que le problème est plus le productivisme, l'extractivisme et la croissance infinie sur une planète qui est finie avec une quantité de ressources données que le capitalisme en lui-même, parce que malheureusement les modèles alternatifs ne sont pas plus vertueux.
Ok, et il y a peut-être un modèle qui paraît un petit peu plus vertueux parmi tous, ou pour l'instant c'est encore assez flou, il n'y a pas vraiment...
Il reste à inventer.
Ouais, c'est clair. Eh ben, merci Hugo Clément pour ce temps d'échange.
Merci à vous.
Pour rappel, Le Paradoxe de l'Abondance, signé Hugo Clément, Vincent Ravalec et Dominique Mermoux, est disponible en librairie depuis le 3 octobre. Au fil de 160 pages, on s'y pose deux questions. Comment l'agriculture industrielle, en produisant une quantité colossale de nourriture, détruit les sols, pollue l'air et empoisonne les nappes phréatiques? Et peut-on faire autrement pour qu'une population toujours plus importante mange à sa faim? Merci encore Hugo Clément.
Merci, à bientôt.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique. Aujourd'hui, chronique Quand les femmes faisaient l'histoire. On est à Rennes, la ville qu'elle a tant bousculée, alors impossible de ne pas lui redonner la parole. Milia nous raconte aujourd'hui l'histoire de Louise Baudin.
Aujourd'hui, dans Quand les femmes faisaient l'histoire, on va parler d'une femme qui n'aimait pas vraiment rester tranquille. Elle préférait écrire, mais écrire comme d'autres lancent des grenades. Son nom, Louise Baudin. Journaliste, féministe, pacifiste, socialiste, communiste, bref, une femme qui a coché toutes les cases de l'insoumission possible dans la France du début du XXe siècle. Imagine, t'es à Rennes, en 1912. À l'époque, une femme doit être discrète, élever les enfants, sourire en société, surtout ne pas faire de politique. Et bah Louise, elle coche rien de tout ça. Elle écrit dans les Nouvelles Rennaises. Elle parle suffragette, éducation des filles, lycée de jeunes filles, des idées révolutionnaires à l'époque. Elle préside même l'Union pour le suffrage féminin du département. Louise, c'est celle qui met des pavés dans les vitrines du patriarcat, mais en version article de presse. Puis arrive la Première Guerre mondiale. Tout le monde applaudit le départ des soldats. Elle, non. Pour elle, le féminisme est pacifiste. Elle rejoint un comité international de femmes pour la paix. Et quand une institutrice féministe, Hélène Brion, est jugée pour défaitisme, Louise la défend haut et fort. Courageuse, oui. Imprudente, peut-être. Indispensable, clairement. En 1917, elle cofonde La Voix des femmes. Le titre est clair. Ça suffit de parler sur les femmes. Maintenant, elles vont parler elles-mêmes. Louise écrit aussi dans L'Humanité, Le Populaire, Les Hommes du Jour. Elle devient une voix, une vraie, une voix qui dérange. Et lorsqu'en 1920, la France vote une loi contre l'avortement et la contraception, elle explose. Elle dénonce l'absurdité d'un pays qui demande aux femmes de repeupler comme si elles étaient des usines en panne. Elle en fait un livre, Au pays des repopulateurs. Oui, le titre pique, c'est fait pour. Et puis elle plonge en politique. Le Parti communiste, elle aide à l'implanter en Bretagne. La direction nationale, elle y siège. Et au passage, elle influence un jeune ouvrier nommé Charles Tillon, qui deviendra plus tard un héros de la résistance. Pas mal pour une femme qu'on aurait préféré en tablier. Louise Baudin crée, dirige, transforme des journaux. La Voix communiste, la Bretagne communiste, le Prolétaire de l'Ouest. Elle s'engage aussi pour les femmes pauvres, les prostituées, les oubliées. Elle tape toujours où ça fait mal. L'injustice, l'hypocrisie, l'autorité. Mais voilà, quand on dérange les pouvoirs, tous les pouvoirs, ça finit par coûter. Elle refuse l'alignement total sur Moscou, soutient Trotsky, critique ce qui doit être critiqué. En 1927, elle rompt avec le Parti communiste français. L'histoire officielle, elle la suit jamais, elle la contredit. En 1929, elle est malade, elle est épuisée. Elle décède donc à Rennes. Elle a 51 ans. Et comme souvent, on l'oublie, pas parce qu'elle n'a pas compté, parce qu'elle a été trop en avance, trop radicale, trop vivante. Louise Baudin, c'est la preuve qu'une plume peut être une arme. Qu'on peut défendre la paix, les femmes, les pauvres, les mutins, et tenir tête aux partis, tous les partis. Elle n'a pas seulement écrit, elle a déplacé des lignes, elle a secoué un pays qui préférait l'ordre au changement. Si on l'a oublié, ce n'est pas par manque d'importance, c'est juste parce qu'elle vivait deux générations trop tôt. Alors aujourd'hui, depuis Rennes, sur Syllab, on ouvre la fenêtre et on la laisse revenir.
Merci beaucoup Milia, à bientôt pour un nouvel épisode. Nous, on va aller vérifier si on a un message sur le répondeur.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Cup Week. J'ai eu un message aujourd'hui d'une auditrice, d'un auditeur, je ne sais pas, une personne anonyme qui m'envoie souvent des messages pour nous féliciter du travail qu'on fait dans 6 heures avant minuit. Ici, là, il y a l'émission qui nous écoute peut-être aujourd'hui. Salut à toi, je ne sais pas ton prénom. Et qui me disait, on n'ose pas laisser des messages et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Alors je le dis, si vous n'osez pas laisser des messages, mais osez, il n'y a aucun souci. On n'est pas dans le jugement, on est dans la bienveillance, on attend votre parole. En fait, ce répondeur, il est fait pour ça, pour celles et ceux qui n'osent pas parler. Alors, c'est le moment. Je vous redonne le numéro 02 30 96 25 35. On attend vos douces voix. Je vous rappelle que notre émission organise une collecte de Noël au bénéfice de deux assos rennaises, Cœur Résistant et Iskis. Donc, si vous voulez nous apporter du café moulu, du thé, du sucre, du lait, du chocolat en poudre, des sous-vêtements, des vêtements chauds, des couvertures, des oreillers, des aliments festifs, des boissons festives, de l'huile végétale, du sel, des épices, de la farine, des pâtes, du riz, des biscuits, enfin bref, vous voyez le délire. Rendez-vous dans nos locaux entre 10h et 18h en semaine. On est sur le campus Villejean de l'Université Rennes 2, au deuxième étage du bâtiment EREV. On transmettra la récolte aux assos lors de leur passage en studio. Ce sera le jeudi 18 décembre pour la dernière émission de l'année. Et puis, je vous dis à samedi, au Transmusical, on sera Hall 4 de 20h à 21h30. Vous pouvez nous écouter à la radio ou venir nous voir en vrai si vous êtes de passage au Trans. Nous faire un petit coucou directement. Merci à vous, merci Maud pour la technique et à mardi dans 6h avant minuit parce que vu qu'on travaille samedi, et ben lundi on est en récup. Salut!
Si, la, la. La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs vitaux.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.